France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Lundi 5 août, nous sommes au creux de l'été. Le gouvernement est en vacances, comme de nombreux Français, mais la vie politique continue et, exactement comme l'année dernière, l'année qui vient de s'écouler, secouée par la crise des Gilets jaunes, elle est marquée, cette vie politique, par la violence. Depuis plusieurs jours, de nombreuses permanences de députés de la majorité ont été dégradées, taguées, murées à travers toute la France. Des actes qui font suite à la ratification par l'Assemblée nationale du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Des actes qui, une nouvelle fois, en disent long et renseignent sur la crise de confiance entre citoyens et élus, sur la crise de la démocratie représentative. Avec nous ce matin pour tenter de comprendre la situation, Bruno Quettel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député La République En Marche de l'Eure, vice-président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, chargé des relations institutionnelles avec les territoires. Et puis nous sommes également en studio ici avec Jérôme Fourquet, bonjour à vous.
Bonjour.
Directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP. Bruno Quettel, pour commencer peut-être avec vous, on a une quinzaine de permanences LREM qui ont été visées. C'était le cas d'ailleurs encore ce week-end à Lyon pour la permanence de votre collègue Thomas Rudigoz. Mais vous aussi, vous avez été visé de menaces de mort et de coups de feu tirés devant chez vous il y a quelque temps. Vous avez récemment expliqué qu'il s'agissait de l'œuvre de quelques énergumènes, mais Bruno Quettel, et si ça a été plus grave que ça?
Bien sûr, vous avez raison. Ce sont des actes graves qui sont commis, qu'il s'agisse de ceux perpétrés l'hiver dernier ou ceux qui ont eu lieu ces derniers jours. C'est une atteinte aux représentants du peuple que sont les parlementaires. C'est une atteinte aussi aux institutions de la République à travers le mandat que nous exerçons. Et c'est aussi quelque part une remise en cause des équilibres institutionnels et républicains de notre pays. C'est un refus des décisions prises par une majorité parlementaire légitimement élue.
Il y a une continuité entre ce qui s'est passé l'hiver dernier en termes de violence politique et ce qu'on voit se dessiner cet été. Il y a eu des inscriptions relatives au CETA et aussi à la mort de Steve Maya Caniço ce week-end à Lyon. Mais c'était aussi une manif de gilets jaunes. Il y a un carburant nouveau, là, selon vous, Bruno Quettel, qui est de nature à vous inquiéter?
Il y a aussi, il faut pas se voiler la face, une formidable instrumentalisation qui a été opérée par quelques structures partisanes, qu'elles concourent ou non au suffrage universel, et qui alimente, je dirais, la pompe à rébellion et à actes de la sorte tels qu'ils sont commis. Les choses sont aussi un minimum organisées. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, si vous me permettez l'expression.
Quelle structure partisane, Bruno Quettel?
Écoutez, il faut être clair, la France insoumise, on a joué un jeu très dangereux l'hiver dernier, et encore il y a peu, en s'alliant parfois, en ayant la même dialectique, pour légitimer les violences qui sont perpétrées contre les institutions. Et en faisant cela, elle tire contre leur camp et elle joue la France insoumise joue les idiots utiles du Front National sans mesurer les portées de tout cela.
Est-ce que tout ça n'est pas surtout le signe, et comme d'ailleurs l'a reconnu Emmanuel Macron lui-même, le président de la République, en arrivant au fort de Brégançon il y a quelques jours, le signe que rien n'est réglé et que les ferments de la crise sociale et politique de l'an dernier sont toujours là?
Oui, vous avez raison. Il ne faut pas oublier que seuls 50% des Françaises et des Français se sont déplacés en juin 2017. Cette crise, elle est larvée, elle est ancienne, elle est vraiment de défiance à l'endroit ou à destination des représentants du peuple et des candidats et de toute femme et homme qui fait de la politique, tout simplement. Donc oui, le président de la République a tout à fait raison de rappeler que tout ça, c'est pas réglé en un claquement de doigts. Les plus de 10-15 milliards que nous avons mis sur la table cet hiver pour répondre dans l'instant aux revendications n'effacent pas cette crise forte qui nous est opposée. Et cette crise de défiance qui remonte aussi à de nombreuses années et à tant et tant et tant d'atermoiements, de lâchetés, de faux semblants et de mensonges perpétrés par la classe politique ces dernières décennies.
Jérôme Fourquet, ce genre de contestation auquel on assiste là depuis quelques jours, déverser un tombereau de fumier devant une permanence, murer une permanence, s'en prendre au mobilier, c'est pas tout à fait nouveau. Ce qui est nouveau peut-être, c'est que en plein été, ça continue à exister. Et puis il y a un degré de violence quand même. Il y a quelques jours, le député Romain Gros à Perpignan était dans sa permanence quand il y a eu une tentative d'incendie.
Alors effectivement, il faut, je pense, distinguer les choses parce que on a un nombre assez impressionnant de permanences qui ont été attaquées ou l'objet d'un certain nombre de dégradations. Mais si on veut opérer une classification rapide, on a peut-être une petite moitié de ces attaques ou de ces actions récentes qui ont été commises par des agriculteurs qui protestent contre la signature du CETA. Et donc là, comme vous le rappeliez, on est sur des modes d'action assez classiques et traditionnels, hein, le fumier déversé, les parpaings murant symboliquement une préfecture, des jets d'œufs ou d'autres différentes denrées agricoles. Donc là, il y a des choses qui sont relativement classiques et qui bénéficient traditionnellement en France d'une certaine compréhension ou mansuétude. Voilà, ça fait longtemps qu'on connaît ce genre de choses. Et dans ce type d'action menée par des syndicats agricoles ou des agriculteurs, il y a aussi une gradation entre quelques parpaings posés symboliquement et puis des tonnes de fumier. C'est pas exactement la même chose. Et puis, à côté de ces actions, et c'est ça qui est peut-être nouveau, on a aussi d'autres attaques, alors qui ont pris des formes différentes, qui là émanent plutôt de la mouvance de la gauche radicale. On le voit aux tags et aux inscriptions qui sont laissées par les auteurs de ces actes, ou par ce qu'on a appelé les ultra jaunes, c'est-à-dire des gilets jaunes radicalisés, ce qui est manifestement plutôt le cas de ce qui s'est passé à Perpignan, où là on n'est plus dans le tag ou le graffiti, mais donc il y a une dégradation très forte du mobilier urbain et un début d'incendie qui a été déclenché par les protagonistes avec la présence du député dans sa permanence, et cette permanence qui était au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Habité, ouais. Donc là, on voit bien sur un niveau de violence qui est très différent. Donc il y a à la fois des acteurs qui sont différents, des modalités qui sont différentes, mais tout ça se coagule ou vient se télescoper, ce qui est
ça,
aussi...
Ça veut dire qu'il y a une jonction ou qu'il y a une convergence, pour reprendre le mot qui était souvent évoqué.
Il n'y a pas forcément de convergence, mais il y a une juxtaposition des mobilisations. Ce qui est nouveau, c'est en plein été, alors que on aurait pu s'attendre à ce que les choses se pacifient. Et puis, ce qui permet aussi cette relative jonction ou ce télescopage, c'est que le CETA, eh bien, est à la fois un sujet de mobilisation pour une partie de l'extrême gauche et de la gauche radicale. La France insoumise est très en pointe là-dessus, mais aussi une mobilisation de la part des agriculteurs. Mais donc, je pense qu'il faut pas mêler les deux. Le tout donne quand même l'image d'une société qui est quand même assez fortement en tension. Et quand le président de la République, en disant que les braises de la crise des gilets jaunes couvaient encore, je pense qu'il ne croyait pas si bien dire, et que ces récentes actions ou ces récents faits divers, eh bien, viennent nous rappeler que la crise n'est manifestement pas réglée, même si, quand même, si on regarde les choses objectivement, les cortèges qui continuent de se réunir samedi après samedi rassemblent quand même beaucoup moins de monde. Mais ouais, ceux qui sont encore là sont plus déterminés que jamais et ont sans doute, pour certains, basculé dans des registres d'action qui sont plus violents.
C'est ça, c'est ce qui est là aussi, et encore, Jérôme Fourquet, c'est cette idée selon laquelle la violence est la seule à même de faire bouger les lignes, parce que c'est ça aussi ce qu'on a appris de la crise des gilets jaunes au creux de l'hiver, c'est que le président, le gouvernement a bougé quand la situation a commencé à se dégrader, a commencé à être violente.
Là aussi, il y a deux choses. Certains vont dire, vous voyez, il n'y a que la casse qui va payer. Et d'autres, c'est un peu différent, et ont basculé dans des formes d'action de plus en plus radicales, dans un processus qu'on connaît bien en sciences sociales, c'est-à-dire que quand on a un mouvement social qui traîne dans la durée, à la fin il y a moins de monde, mais ceux qui sont là basculent dans d'autres répertoires ou d'autres registres d'action. On a parlé des permanences, on pourrait aussi parler des manifestations qui virent à l'affrontement quasi systématique maintenant avec les forces de l'ordre, avec quelques villes emblématiques. Ce qui s'est passé encore à Nantes ce week-end, c'est des images qu'on voit maintenant très régulièrement. C'est les mêmes boulevards, les mêmes types de manifestants, les mêmes scènes qui se reproduisent. Alors, ça avait commencé à Nantes avec la mobilisation autour de la ZAD. Il y a eu ensuite la loi El Khomri, la loi Travail. On a eu après les manifestations des Gilets jaunes, et maintenant cette manifestation contre les violences policières et à la mémoire du jeune Steve. Mais tout ça montre que voilà, on a un terreau, on a un ferment dans certains endroits pour que la situation vire à l'émeute ou à l'affrontement.
Ce sont les mêmes ressorts qui nourrissent cette défiance envers la police, représentante d'une autorité, et la défiance vis-à-vis de la classe politique, parce qu'il y a cette question-là qui est évidemment sous-jacente.
Alors, on a là aussi quelque chose qui est relativement nouveau, c'est le fait que la police soit, j'allais dire, prise à partie dans cette confrontation politique. Pas mal d'opposants à la majorité actuelle estiment que la police ou les forces de l'ordre ont été instrumentalisées par le pouvoir pour des raisons politiciennes. Et donc, du coup, les forces de l'ordre sont prises à partie, même si, attention, encore une fois, il faut qu'on regarde le nombre de manifestants ou de participants que cela représente. On peut avoir le sentiment, en regardant certaines images, qu'il y a la montée en puissance dans notre pays d'un sentiment anti-flic, pour le dire comme ça. L'IFOP a réalisé ce week-end un sondage pour le Journal du Dimanche. 71% des Français continuent à avoir confiance ou de la sympathie vis-à-vis de la police. C'est des chiffres qui sont en stabilité tout à fait nette par rapport à des enquêtes qui ont été menées en 2015 ou 2012. Néanmoins, 20% expriment de l'inquiétude à l'égard de la police et 6% de l'hostilité. Cette hostilité, elle est présente chez 20% des sympathisants de la France insoumise, alors que en 2015, une autre enquête posée dans les mêmes termes montrait que simplement 7% des sympathisants du Front de Gauche éprouvaient une certaine forme d'hostilité vis-à-vis de la police. Donc on voit qu'il y a une partie de la gauche radicale, et pas seulement dans ce secteur-là, mais la gauche radicale est assez en pointe sur la question, qui se radicalise face à la police, même dans un contexte où la police continue d'avoir un soutien et une bonne image dans une grande majorité de la population.
Bruno Quettel, ça vous inquiète ce que vient de d'expliquer Jérôme Fourquet, cette situation qu'il vient de dépeindre ?
Oui, elle est bien évidemment inquiétante. Elle est connue et appréhendée dans le sens où vous évoquiez tout à l'heure, par exemple, les images de Nantes de ce week-end de violence suite à la manifestation en la mémoire de ce jeune Steve malheureusement décédé. Ces hommes, parce que ce sont essentiellement des hommes qui prennent du mobilier urbain pour détruire des bâtiments publics ou tenter de le faire. Ils ne sont pas animés par de bonnes intentions. Il y en a toujours eu des personnes de la sorte qui veulent, à un moment ou à un autre, lorsqu'ils voient ou qu'ils perçoivent une fragilité ou une fenêtre de tir, comme on dit, essayent de mettre à mal les institutions. Il y a des femmes et des hommes qui ne croient pas en la République dans notre pays, comme il y a des femmes et des hommes sur Terre qui ne croient pas en la démocratie. Et on est confronté à ce type de phénomène. Et le plus grave, de mon point de vue, est que des élus nationaux, siégeant au Parlement, anciens candidats aux élections présidentielles, alimentent cet état d'esprit et ce mauvais vent en légitimant les violences qui sont commises et en y mettant dans la balance les réelles ou supposées violences d'État, soit à travers les forces de l'ordre que vous évoquiez tout à l'heure, soit à travers les conséquences économiques et sociales des mesures que nous pouvons adopter depuis 2 ans que nous sommes en capacité parlementaire de réformer ce pays.
Ouais, vous êtes en train de rejeter la faute et vous êtes en train de nous dire que l'explication de cette violence qui monte dans le pays, et notamment au niveau politique, est due à finalement une division de la classe politique, y compris à l'Assemblée,
Non, c'est pas une division de la classe politique, c'est une jonction des discours du Front National et de la France Insoumise qui essayent de rejouer le match de 2017 à travers les manifestations. Les revendications, dont certaines sont légitimes, doivent être entendues et appréhendées. Et en attisant cette forme de sentiment qui prévaut aujourd'hui maintenant chez certaines personnes, qu'il vaut mieux détruire pour être entendu que de tenter de discuter et d'échanger et de progresser conjointement.
Alors le thème est bien connu de la jonction, en tout cas d'une certaine alliance, du moins une alliance utile entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Jérôme Fourquet, sur ce point, comment vous répondez à Bruno Quettel?
On peut en discuter sur le plan du discours et des prises de position. Et elle a pu avoir une certaine matérialité sur le terrain au moment de la crise des Gilets jaunes. On a vu notamment au moment du saccage de l'Arc de Triomphe qu'il y avait des membres de groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche qui ont fait le coup de poing ensemble et après les uns contre les autres, mais un moment ensemble contre les forces de l'ordre. Là, des éléments qui sont à notre connaissance en lien avec ce qui se passe depuis quelques semaines autour des permanences ou de la manif de Nantes, on voit pas forcément trace là d'une action de l'extrême droite. Moi, je suis plutôt sur l'analyse que j'avais précédemment, c'est-à-dire que la crise des Gilets jaunes qui s'est installée dans le pays depuis plusieurs mois a fait basculer dans la radicalité et dans d'autres formes d'action que les formes d'action traditionnelles une partie très minoritaire de la population, mais qui ne veut pas décrocher et qui se retrouvent samedi après samedi pour des raisons différentes. Ça peut être contre les violences policières, ça peut être contre le CETA. Le jeune Steve n'était pas, à ma connaissance, un gilet jaune, mais à Lyon, on a rendu hommage à Steve dans la manif des gilets jaunes. Et donc on a voilà un groupe comme ça qui s'est constitué de manière hétérogène et qui est venu gonfler les rangs de ceux qui constituent habituellement les Black Blocs et qu'on voit à l'œuvre maintenant de manière quasi systématique dans les manifestations sociales.
Tout ça pouvant s'expliquer, Jérôme Fourquet, par une certaine fragmentation de la société française. C'est ce que vous avez expliqué, hein, théorisé dans un livre récent à propos de, en parlant de l'archipel français, tout un tas d'intérêts qui sont de plus en plus centrés sur des individualités ou sur des groupes restreints qui se confrontent ou qui peuvent s'allier.
Voilà. Alors on a ça, hein, là, ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on a à la fois manifestement des agriculteurs ou une partie du monde agricole qui s'est mobilisée. À côté de cela, des gens qui se revendiquent plus de la mouvance des Gilets jaunes, d'autres qui sont de la mouvance d'extrême gauche. Il n'y a pas forcément de passerelle entre les uns et les autres. Et puis on a aussi, de manière plus globale, ces différentes îles de l'archipel qui pour certaines d'entre elles aujourd'hui n'obtempèrent plus devant une légitimité supérieure qui serait celle de la majorité, parce que c'est ça aussi dont il est question, c'est-à-dire au nom de quoi dois-je accepter des décisions qui sont prises, pas forcément mon nom, estime-t-il.
On n'a plus de représentants légitimes ou on estime qu'on n'a plus de représentants légitimes?
Alors la question de la représentativité est centrale. On l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes où à chaque fois qu'un leader des Gilets jaunes a émergé, on lui a symboliquement coupé la tête et ce dernier pour se
pas
prémunir,
tous, hein. Ouais.
Mais beaucoup, et ce dernier pour se prémunir, ceux qui sont restés un peu plus longtemps sur le dos du cheval, estimaient qu'ils parlaient uniquement en leur nom, ouais. Et que jamais ils ne se seraient sentis investis d'une parole qui était celle de l'ensemble des Gilets. Donc on a cette vraie crise-là et on voit que ces actions qui sont commises, elles sont aujourd'hui commises la plupart du temps hors structure. Les agriculteurs, il y a un certain nombre d'organisations syndicales qui sont proches de ceux qui commettent ces actions, mais on voit que souvent ce sont des initiatives qui émanent du terrain.
C'est ça qui aussi peut expliquer un certain anti-parlementarisme qu'on voit, alors c'est pas nouveau, hein, mais qu'on voit encore à l'œuvre en France, Jérôme Fourquet. On prend les députés plus comme des représentants du pouvoir plutôt que comme des représentants du peuple.
Alors là aussi, il y a deux choses intéressantes, c'est que c'est effectivement des députés via leur permanence qui sont ciblés. Et non pas, on parlait tout à l'heure des agriculteurs, historiquement ou traditionnellement, c'est plutôt l'État. Donc ça va être la préfecture, les perceptions ou d'autres bâtiments publics. Là, ce sont des élus qui sont ciblés. Et puis, deuxième ciblage, ce sont les élus de la majorité. Mais donc là, on revient effectivement à quelque chose que la France a connu de longue date, un discours très anti-parlementariste. Ce qui nous fait aussi penser que, ou ramener à la crise des Gilets jaunes, où on a vu un discours qui s'apparentait à un discours très anti-élite, et qui maniait la référence révolutionnaire. On a commémoré le 14 juillet récemment. Et après le 14 juillet, il y a eu la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges. Pour toute une partie de la société française, aujourd'hui, il y a une nouvelle classe, à tort ou à raison, constate-t-il, une nouvelle noblesse d'État qui est composée par les hauts fonctionnaires et par les élus, au premier rang desquels les élus nationaux. Et donc, on a, dans l'attaque symbolique de ces permanences, aussi cette idée qu'il y a un groupe qui est détaché des intérêts communs et qui doit être visé. De ce point de vue-là, ce qui s'est passé autour de l'affaire de Rugy est venu aussi alimenter cette petite musique.
Oui, sur l'exemplarité, on y reviendra peut-être.
Mais le fait qu'il y ait voilà, une groupe, à tort ou à raison, Timton, une partie de la population qui vit avec des rentes et des privilèges. Et donc, c'est au nom de cette vision-là que les permanences aujourd'hui sont attaquées.
Et c'est le clivage élite contre peuple qui prend la place peu à peu. Et est-ce qu'on arrive au bout du phénomène et du processus, Jérôme Fourquet? C'est ça la question du clivage gauche-droite qui a explosé en 2017, mais qui depuis longtemps était remis en
place. On est là-dessus. On est là aujourd'hui sur une partie de la rue, entre guillemets, qui se confronte au pouvoir. Et le pouvoir, c'est le pouvoir central, avec son émanation qui serait les parlementaires de la majorité.
C'est la fin du processus?
Alors, c'est une des étapes du processus. On va voir s'il en reste là ou pas. Mais on voit bien que là, effectivement, la référence gauche-droite est totalement évacuée. Et donc, on est bien sur un discours, en tout cas pour les protagonistes de ces actions, des gros contre les petits, du peuple contre ses soi-disant représentants, je mets des guillemets. Et donc, on a toute cette rhétorique-là, effectivement, qui est entrée en mouvement, alors et qui s'abreuve, à mon avis, à une filiation historique en France. Hein, c'est la question de la Révolution. Souvenez-vous des bonnets phrygiens, souvenez-vous des échafauds en carton, pâte, qui avaient été dressés sur un certain nombre de ronds-points, sur les propos très très virulents vis-à-vis de Madame Macron, qui jouait sur le parallèle avec Marie-Antoinette, etc. Donc, dans l'imaginaire collectif, il y a tout ça qui s'est remis en mouvement.
Et l'été qui est là, en train de se passer, n'apaise pas les tensions.
Non,
on va continuer.
Même si on est sur une quinzaine d'actions, et dont certaines sont très symboliques, encore une fois.
France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Nous essayons ce matin de comprendre la violence qui se manifeste en ce moment dans la vie politique française, violence physique tournée cet été vers les permanences de députés de la majorité. Il y a eu une quinzaine de permanences dégradées, taguées, pas détruites, mais en tout cas vandalisées ces dernières semaines. Violence qui se tourne aussi vers d'autres représentants de l'autorité. On a parlé tout à l'heure des forces de l'ordre. Violence qui s'explique dans une certaine mesure par la fragmentation de la société française. On en était là de notre entretien. Tiens, Jérôme Fourquet, qui est notre invité ce matin, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Autre invité en duplex avec nous, Bruno Quetel, député La République En Marche de l'Eure. Jérôme Fourquet, cette fragmentation de la société française, vous l'expliquez en parlant de l'archipel français, du nom d'un ouvrage que vous avez publié en février, l'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée. Et vous remontez à loin pour expliquer cette fragmentation à l'œuvre.
Oui, alors effectivement, le constat qui s'est imposé à nous, c'était celui d'une société qui était divisée en îles et îlots, d'où l'image de l'archipel, et cette fragmentation qui n'est pas nouvelle, mais qui est de notre point de vue sans précédent, s'explique par la dislocation de ce qu'on a appelé des matrices unificatrices ou unifiantes, structurantes, au premier rang desquelles l'opposition qui a façonné notre vie sociale et politique depuis les deux derniers siècles, qui était cette opposition entre un bloc catholique et un bloc laïque et républicain. Tout ça n'a pas disparu, mais c'est très fortement disloqué pour toute une série de raisons historiques ou plus contemporaines. Et de ce point de vue, si on remonte pas très loin en arrière, le 14 juillet dernier, un certain nombre de scènes qui ont été données à voir à nos concitoyens ont, de notre point de vue, illustré très symboliquement cette archipélisation de la société française. C'est-à-dire que le jour de la fête nationale, où on célèbre notamment la fête de la fédération, se sont succédé dans une unité de lieu assez marquante.
Et de temps, du coup. Hein.
Et de temps. Le défilé traditionnel, puis des violences émanant de certains gilets jaunes radicalisés ou de Black Blocs sur les Champs-Élysées. Et puis, le soir, les cérémonies de liesse qui ont en partie dérapé derrière, de supporters de l'équipe d'Algérie avec force drapeau algérien brandi sur les Champs-Élysées. Donc tout ça nous montre bien cet état de fragmentation de la société française qui peut, dans certaines conditions, déboucher sur des affrontements ou des tensions.
Ce que vous nous dites, c'est que la démocratie représentative est orpheline en quelque sorte de ce clivage entre religieux et laïque qui s'est effondré. Elle est aussi, on l'a dit tout à l'heure, orpheline de ce clivage gauche-droite qui n'existe plus.
Alors, il existe encore, mais il n'est plus aujourd'hui premier et il n'a pas été remplacé par un nouveau clivage qui permettrait de consolider ou d'agréger des blocs suffisamment puissants pour sortir des majorités. Donc on est sur une fragmentation, on a bien une opposition, on l'a vu aux dernières élections européennes, entre d'un côté La République En Marche et de l'autre le Rassemblement National. Ce sont les deux forces qui sont arrivées en tête de ces élections européennes. Les deux représentants de ces forces qui avaient été qualifiés pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc on a ce nouveau clivage qui se met en place, mais qui n'a pas effacé totalement le vieux clivage gauche-droite. Et ce nouveau clivage, il n'a pas néanmoins la force d'agrégation, je me répète, qu'avait le clivage gauche-droite. Donc on est dans une situation très instable, très précaire, mais qui, sur le plan politique, n'est que la traduction de l'éclatement de la société française, en fait.
Et si on rajoute à ce constat le fait que la majorité en place déçoit une certaine partie, et c'est tout à fait naturel, c'est comme ça que ça se passe, une certaine partie de son électorat, mais de la société française, on arrive à une situation qui, véritablement, est compliquée et en tout cas peu lisible, Jérôme Fourquet.
Oui, alors on a ça, effectivement, sachant que on a, dans les sondages d'opinion, une remontée partielle de la popularité du couple exécutif, qui aux entours de 30% de bonne opinion, donc c'est pas du tout déshonorant par rapport à d'autres références qu'on peut avoir sur les quinquennats précédents. Néanmoins, on a cette violence qui est là, alors qui ne remonte pas uniquement à l'élection d'Emmanuel Macron. On a parlé tout à l'heure des manifestations contre la loi travail.
Oui, c'était l'autre quinquennat.
Voilà, on avait eu des violences au moment des 1er mai, alors sous ce quinquennat. Mais donc on a parallèlement à la fragmentation, une partie de la population qui aujourd'hui considère que recourir à des formes d'action brutales ou violentes, symboliques ou non, est du domaine du possible et quelque part légitime.
Alors il faut trouver peut-être d'autres modes d'engagement politique, parce que on voit aussi dans vos enquêtes d'opinion que il y a à la fois une méfiance et un dégoût pour la classe politique qui s'exprime, et aussi un certain intérêt pour la chose publique. Bruno Ketel, vous qui êtes député de la majorité, député de l'Eure.
Vous m'aviez oublié.
Non, vous êtes là. Merci. Comment est-ce que vous intervenez, parce que c'est à vous de jouer finalement.
Écoutez, comment nous intervenons, c'est par un contact plus que régulier avec les femmes et les hommes qui représentent le peuple de France, qui est appelé aux urnes d'une manière régulière dans une république organisée qui doit être respectée. Comment nous intervenons, je vous rappelle que plus de la moitié des députés de La République En Marche n'avaient jamais fait de politique. C'est pas souvent rappelé, mais il faut pas l'oublier. Plus de la moitié d'entre nous se sont engagés pour Emmanuel Macron, parce qu'il est apparu, avec juste raison, comme voulant réformer cette société complètement sclérosée qui génère aujourd'hui une situation que vous décrivez. Et imaginez ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu ce fameux Big Bang de 2017. Comment nous réagissons? En essayant et en tentant au quotidien d'être le plus transparent possible dans l'explication, la pédagogie et aussi l'accompagnement à la maturation des idées à accepter les réformes. Parce que ce pays, si on ne le réforme pas, qu'adviendra-t-il dans une économie européenne, mondiale, dans une polarisation polyforme des États? Faut pas oublier ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé ce week-end aux États-Unis après les déclarations du président Trump. Regardez ce qui se passe en Angleterre. Regardez ce qui se passe en Italie. Est-ce qu'on veut que la France devienne un pays replié sur lui-même avec Marine Le Pen aux manettes? En tout cas, moi, je ne le veux pas. Je me battrai de toutes mes forces pour qu'on évite cela.
Alors, quand on parle de nouvelles façons de faire de la politique, Bruno Ketel, arrive tout de suite la question du référendum. Alors, on a en ce moment une très bonne illustration avec le référendum d'initiative partagée pour s'exprimer, pour que le peuple puisse s'exprimer sur la privatisation ou non d'aéroports de Paris. C'est une procédure qui se fait dans l'ombre. Il y a peu de publicité faite, en tout cas par le gouvernement et par la majorité, autour de ce référendum. Est-ce que là, il n'y a pas, Bruno Ketel, une occasion manquée peut-être de faire de la politique autrement?
Non, mais ça, c'est votre point de vue et vous m'excuserez et me pardonnerez de pas le partager. Le référendum que vous évoquez, on s'inscrit dans la juste application des règles constitutionnelles adoptées sous Nicolas Sarkozy. Maintenant, la majorité parlementaire, elle s'est prononcée et vous essayez d'opposer la démocratie représentative à la démocratie directe. D'autres s'y sont essayés, ça génère toujours des tensions, ce genre de débat. Et moi, je ne m'inscris pas dans ce cadre-là. Comment voulez-vous légitimement considérer que l'une de ces représentations, à savoir la représentation directe, vienne dire le contraire de la représentation représentative? Pensez-vous
au fond de vous-même, que chaque Française et Français mesure les tenants et aboutissants, non pas de la privatisation, comme vous l'évoquez, mais de la mise en concession des aéroports de Paris, puisque vous savez que tout ça est limité dans le temps et s'inscrit dans une logique économique globale, qui est celle portée par Bruno Le Maire, qui est le premier ministre de l'économie européenne à avoir remis en cause les fondements du capitalisme, je vous le rappelle, dans une interview du Point de la semaine dernière.
Vous êtes en train de nous dire, Bruno Quetel, si je vous comprends bien, que le référendum sur la question d'aéroports de Paris n'est pas forcément une bonne chose, si je vous ai bien entendu.
Non, c'est pas ce que je vous dis.
Le peuple n'est pas à même de s'exprimer sur une question comme celle-là.
Non. Je vous dis juste qu'il faut laisser la procédure aller jusqu'à son terme. En ce moment, on est dans la démarche qui consiste à recueillir les signatures. Il est là aussi de la France insoumise au Front National, différents partis politiques qui se sont lancés dans cette opération. On n'oublie pas les Républicains et c'est ce qui rend la chose plutôt cocasse. C'est à eux, qui sont à l'origine, d'aller chercher ces 4,5 millions de signatures. C'est pas à La République En Marche d'aller sur les marchés pour demander aux Françaises et aux Français, le cas échéant, de faire la courte échelle à la France insoumise et à Madame Le Pen.
Est-ce que c'est pas une occasion manquée de faire un pas, non pas vers une démocratie directe, parce que c'est pas ça le référendum, le RIP, hein, mais en tout cas de faire un pas vers quelque chose d'un peu plus partagé, d'un peu plus inclusif pour les citoyens qui ont un intérêt, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à la chose publique.
Mais les citoyens ont un intérêt à la chose publique, mais on doit aussi être dans la confiance en les représentants qui sont désignés, je vous le rappelle, démocratiquement, parce que ça semble oublier parfois quand on entend certaines choses. Et je vous rappelle que tout un chacun, chaque citoyenne et citoyen, est en capacité de s'engager en politique. Plus de la moitié des députés l'ont fait, de s'inscrire dans une logique partisane, c'est ouvert à tout le monde, et de se présenter aux élections, et le cas échéant, de les gagner. On a l'impression, lorsqu'on vous écoute, qu'on écoute d'autres personnes, que nous sommes simplement illégitime parce que nous exerçons un mandat.
C'est pas ce qu'on a dit, Bruno Quetel. C'est pas du tout ce qu'on a dit, on pose des questions.
Mais c'est quand même ce qui transparaît à travers des propos qui sont tenus. Donc c'est pour ça que j'ai réagi ainsi. Donc vous savez, moi je suis parlementaire aujourd'hui, demain je ne le serai plus. J'ai une vie à côté, j'avais une vie avant, j'avais une vie après. Je suis un citoyen comme un autre. Et il faut aussi rappeler que les femmes et les hommes qui sont parlementaires, y compris de la majorité, sont des femmes et des hommes comme les autres, qui ont une vie à la fois personnelle, professionnelle, et qui sont dans un temps donné des acteurs de la vie publique et politique.
Ouais. Alors, on se contente de poser des questions, hein, tout à fait modestement, sur ce plateau ce matin, Bruno Quetel. Jérôme Fourquet, on est au cœur du problème, là. Le cœur du problème, c'est cette démocratie représentative qui semble un peu patiner, dont on n'imagine pas trop comment elle pourrait évoluer. En tout cas, c'est difficile, quoi.
Alors, effectivement, on voit bien les difficultés. On voit aussi le rapport au temps a énormément évolué, c'est-à-dire que aujourd'hui l'idée de confier les destinées du pays pendant 5 ans ne va pas de soi pour une partie de la population qui peut dire mais on n'a jamais été consulté, il n'a jamais été question du CETA pendant la campagne présidentielle, et donc il est légitime que le peuple puisse être interpellé ou être consulté en cours de mandat sur un sujet qui est apparu et qui n'était pas à l'agenda au moment de l'élection qui a fait cette majorité. Juste sur cette question de la mobilisation, je pense que le député Quetel a raison de souligner qu'il y a un certain nombre de forces politiques qui sont engagées dans la collecte de signatures, mais certaines plus que d'autres. On a regardé récemment l'état de la mobilisation en termes de signatures, et il s'avère que ce sont plutôt les zones ou les départements où Jean-Luc Mélenchon a obtenu des bons scores qui se mobilisent le plus, ou en tout cas le moins mal. Et sans présager et augurer de ce que ça peut donner à la fin, le fait de devoir rassembler plus de 4,5 millions de signatures semble quelque chose qui est très très compliqué à réaliser, sachant que, encore une fois, toutes les forces politiques qui se sont manifestées en faveur de ce référendum ne semblent pas être toutes aussi actives les unes que les autres sur le terrain, et que l'essentiel de l'effort de la collecte est aujourd'hui manifestement plutôt assuré par la France Insoumise et dans une moindre partie le PS. Ouais.
Bruno Quetel, vous vouliez réagir,
oui,
je crois.
Oui, s'il vous plaît, je vous en remercie. Juste rappeler que dans notre volonté de réformer la Constitution, nous voulons abaisser le seuil de 4,5 millions à 1 million de signatures. Mmh. Et c'est la droite sénatoriale qui nous empêche aujourd'hui de réformer la Constitution. Donc les conservateurs, il faut bien les chercher. Quand on les cherche bien, on les trouve. Allez voir du côté du Sénat. Sur le CETA, c'est la ratification d'un accord international de l'Union européenne. La ratification des accords internationaux n'est jamais listée dans un programme présidentiel, et tout le monde le sait très bien. Le CETA, il a été initié sous Sarkozy, rédigé sous Hollande et signé après avoir été modifié sous le président Macron. Donc là aussi, il faut sortir de la mystification et ne pas faire du totem, parce que je crois qu'en faisant ainsi, on vulgarise trop les choses. Il faut faire de la pédagogie. Moi, je rencontre les agriculteurs de ma circonscription. Je vais au charbon, je vais me faire engueuler, mais il faut aussi accepter que les décisions soient prises à un moment donné. Et c'est le temps démocratique et républicain qui permet de les remettre en cause.
Merci beaucoup Bruno Ketel, député La République En Marche de l'Eure, en duplex ce matin depuis les studios de France Bleu Corse, Frequenza Mora, que nous remercions. Merci aussi à vous Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Je rappelle donc qu'en février dernier, vous avez publié L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée.